Mais on démarre.
Ok, parfait. Donc, bonjour à tous. Voilà, donc Edith Anastasiou, responsable informatique et des applications multimédia de la médiathèque de Martigues. Donc, nous sommes dans les Bouches-du-Rhône. Et nous allons vous présenter aujourd'hui notre solution d'écoute sur place, en fait, qui est portée par l'espace musique, évidemment, de la médiathèque. Écoute sur place qui est donc qui a été mise en place avec Gmixon, une société de Montauban, et puis à l'OS, donc le logiciel informatique, le SIGB de la médiathèque. Donc je vais vous donner quelques petits chiffres pour vous présenter la médiathèque très, très rapidement et quelques dates. Voilà, donc on est rentré dans l'ère du numérique parce que nous avons en 2003 agrandi, enfin commencé à réfléchir à l'agrandissement de la médiathèque. Donc c'était une médiathèque de 2000 m² à l'origine, qui était informatisée, mais qui n'était pas encore rentrée dans l'ère de l'internet de façon, on va dire, élargie et avec des applications multimédia intéressantes. En 2005, donc on a ouvert la médiathèque avec 69 postes. Voilà, donc, et puis en septembre 2005, on a inauguré la solution d'écoute sur place, donc qui est une solution mise en place par OPSIS, hein, donc avec la version à l'OS. Et donc ils ont sous-traité la partie numérisation du fond avec Gmixon, qui est une société de Montauban. Et donc il y a plusieurs médiathèques en France, une dizaine en fait, qui ont cette solution là. Voilà. La médiathèque donc fait 4000 m² a aujourd'hui 17 437 inscrits et on a à contrario, puisque ce matin on disait qu'il y avait des baisses, donc nous on a constaté 33% de nouveaux inscrits grâce aux nouveaux services, donc des applications multimédia de la médiathèque, puisqu'aujourd'hui on offre, en plus du prêt, etc., des différents médias, on offre des applications multimédia diverses et évidemment l'écoute sur place en fait partie. On a aussi un espace culture multimédia dans la médiathèque qui travaille aussi en direction des différents espaces et notamment par rapport à la musique, qui a tout un travail, on le disait, avec les musiciens, d'hébergement de sites internet, d'aide à la création de Web TV, donc c'est tout un côté annexe comme ça, mais qui peut faire écho à ce qu'on disait ce matin sur le devenir des espaces dans la médiathèque. Nous avons 163 000 documents, dont 23 000 CD, 31 postes informatiques au public aujourd'hui, mais on va rapidement augmenter parce que les besoins sont énormes. Et on a 20 000 CD numérisés pour l'écoute sur place sur les 23 000. Voilà, donc c'est quand même assez important. Et nous sommes 43 personnes à travailler sur l'établissement. La solution informatique de la médiathèque, donc notre SIGB, c'est OPSIS depuis 92 et à l'OS depuis 2005. On a un gestionnaire multimédia qui est Archimède, donc ce matin on en a parlé déjà. Donc Archimède nous gère les applications multimédia, à savoir le portail intranet, les accès CD-ROM, l'impression, la sécurisation des postes à l'internet, etc. Et puis nous avons mis en place donc la solution d'écoute sur place. Donc cette écoute sur place se fait de deux façons très, très distinctes mais complémentaires. Une écoute sur place via l'opaque sur les postes opaques dans l'espace musique, mais en même temps sur tous les postes opaques de la médiathèque. Donc là, sur les postes opaques, vous avez 2 minutes d'écoute des morceaux qui sont numérisés. Donc vous avez quand vous faites la recherche d'un interprète ou d'un morceau de musique, vous avez les liens donc qui vous servent à ouvrir Windows Media Player pour écouter le morceau, et puis évidemment la jaquette de l'album. Voilà. Donc je vous montre là un schéma de la solution d'écoute. Donc je vous ai dit qu'il y avait l'écoute via l'opaque. Donc ça c'est sur les postes fixes des postes opaques multimédia. Et on a aussi une solution de PC Pocket, en fait, ce sont des palmes. Hein. Donc c'est une solution qui est mobile. Et là, effectivement, l'écoute se fait dans sa totalité, c'est-à-dire vous scannez, vous prenez un CD. Le PC Pocket est équipé d'un petit lecteur de code à barre dans son au-dessus. Quand vous scannez le morceau, vous écoutez. Il y a des casques, évidemment, puisqu'on n'écoute pas comme ça, sinon ça va faire des nuisances. Et le PC Pocket, lui, va se connecter en Wi-Fi sur le serveur sur la CUTA, donc sur le serveur de stockage, et va vous donner le morceau dans sa totalité. Donc voilà. Donc là, le PC Pocket, c'est vraiment une utilisation de découverte, mais il y a tout un travail autour, quand même, par rapport au public, d'acquisition, de maniement de l'appareil, comment on scanne, etc. Donc voilà. Donc la solution d'écoute sur place, là vous avez le schéma. Donc sur votre gauche, donc vous avez le travail de numérisation qui se fait de deux façons. Il y a d'abord un serveur de numérisation sur lequel les collègues travaillent, donc numérisent le disque, donc ça va très très vite, et puis en même temps scannent la pochette. Donc après ils scannent l'intérieur, le dessus, les contenus, enfin ils font comme ils veulent. Ce travail de numérisation, donc il y a une compression qui se fait après le soir, où il la lance, après bon, ils sont organisés, il la lance, je sais pas, tous les soirs ou plusieurs fois dans la semaine. Donc ce travail de numérisation après est stocké dans un disque dur qui est assez énorme, donc il y a 1 téra de mémoire, donc c'est assez important. Et il va y avoir le lien qui se fait, en fait, pour que vous compreniez, le lien qui se fait entre ce serveur de stockage et le SIGB, en fait, il y a une construction d'un lien qui se fait sur la base à l'OS de la médiathèque, pour que quand les gens consultent à l'OPAC la recherche musicale, pour qu'ils puissent en fait voir les CD et puis les écouter s'ils en ont le désir. Sur cette installation, il y a une borne Wi-Fi, donc qui est connectée aussi au serveur. Et, sur cette borne Wi-Fi vont se connecter les PC Pocket, et la borne va les connecter sur la base. Et ainsi, les PC Pocket, eux, ils peuvent consulter toute la base en fonction de ce qui est scanné, évidemment, par rapport au code à barre du titre ou du CD. Voilà. Donc, comme je vous disais, donc le lien avec les notices donc bibliographiques, donc les documents sont numérisés. Donc nous, à la médiathèque, les documents sont numérisés en WMA, comme on le verra tout à l'heure. Donc sur le serveur de stockage, là, il y a une association via le code à barre qui se fait sur la notice bibliographique, ce qui fait que les postes à l'OPAC peuvent offrir le service donc de consultation de la musique, du catalogue de la médiathèque. Voilà. Donc la numérisation, donc c'est Gmixon, c'est une société de Montauban. Donc là vous voyez sur la photo, je ne sais pas si on voit bien, puisque il y a beaucoup de lumière. Donc vous voyez le pool de numérisation. Donc il y a un serveur de numérisation, il y a un serveur de stockage, il y a la CUTA, donc la CUTA qui comprend toutes les notices. Donc c'est un disque dur assez très enfin, énorme, quoi, tout, on peut le dire. Il y a donc une borne Wi-Fi et les deux palmes donc qui servent à l'écoute mobile. Donc on peut dire que c'est quand même ce qui est intéressant, c'est que la numérisation est très très rapide. Donc Léo pourra vous le dire. Le choix des formats, donc on n'a pas choisi en fait le format WMA, c'est-à-dire que quand on a fait le choix de Gmixon, donc ça s'est fait en 2004. Il ne faut pas oublier qu'en 2004 il n'y avait pas les mêmes problématiques, je pense, qu'aujourd'hui. Donc la société avait décidé, sans nous consulter, de numériser en WMA. Effectivement, on aurait préféré prendre un format libre ou un format ou du MP3. Et bon, à l'époque, on n'a pas été vigilant à ce niveau-là, et du coup on se retrouve avec WMA, mais bon, voilà. Et donc on a numérisé en 128 pour pouvoir entrer les 20 000 notices dans la CUTA, puisque la numérisation en 192 pouvait pas on pouvait pas mettre nos 20 000 CD, et que le but effectivement n'est pas de donc on a une base de 20 000 CD aujourd'hui, mais le but n'est pas d'acheter des Acuta et de numériser tout et n'importe quoi. Le but est vraiment d'avoir une politique de numérisation, donc Léonard vous en parlera, et d'offrir donc au public quelque chose d'intelligent en termes d'offres et de découvertes, etc. Donc là, vous avez les postes opaques dans la médiathèque. Donc il y a un exemple de recherche, donc recherche documentaire avec les liens directement sur les morceaux. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Donc là, vous avez la jaquette, le devant, le derrière, et puis là, ici, vous avez les liens qui permettent de lancer Windows Media Player et de pouvoir écouter. Donc, ce que je tiens à dire, c'est que la qualité d'écoute, quand même, la qualité de son, donc sur les PC Pocket, est excellente. Sur les postes à l'opaque, on va dire qu'elle est plus que correcte. Donc, voilà. Là, vous avez donc les palmes. Donc voilà, donc le palme est doté d'une carte Wi-Fi, d'un lecteur de code à barre et d'un casque audio. Donc on dit pas palme, on dit pocket PC. Et il permet une liberté totale de mouvement pendant l'écoute. Hein, c'est-à-dire que donc on le prête évidemment sous condition, on ne demande pas une caution, mais donc on demande la carte d'identité pour prêter le palme. Donc nous avons une médiathèque totalement gratuite. Tous les services sont gratuits à la médiathèque, excepté l'impression. Donc, et effectivement, et celui-là il est gratuit aussi. Et la médiathèque est gratuite pour les adhérents qui sont également hors commune. Et donc, ce matin, on parlait de la gratuité. Et chez nous, c'est une religion. Donc, voilà. Sur la solution, je fais vite, mais bon, on ne va pas s'attarder sur la partie technique parce que je pense que peut-être vous avez des questions. Mais j'ai quelques remarques à faire quand même sur l'installation d'une solution comme celle-là. Elle nécessite l'accompagnement du service informatique lors de l'installation parce que c'est quand même quelque chose de relativement lourd à mettre en place qui nécessite donc des connaissances réseau. Il faut installer des cartes réseau, etc. Il y a quand même un travail de maintenance de la part des professionnels et des bibliothécaires à faire, puisqu'il y a quand même un côté instable de la partie Wi-Fi, notamment des PC Pocket. Donc aujourd'hui, les PC Pocket, donc, on va dire que c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Il y a d'autres solutions Wi-Fi qui permettent de se connecter et de consulter, voilà. J'insiste sur la formation des personnels. Donc, et si vous mettez en place une solution comme celle-là, ou comme dans une autre, je veux dire, c'est pareil. Soyez très exigeants sur la formation des personnels, parce qu'un personnel qui n'est pas formé correctement va pas prendre en charge il va pas s'investir dans l'outil. Et effectivement, ce sont des solutions qui coûtent extrêmement cher. On est aux alentours de 50 000 euros. Hein, sur des solutions comme celle-là, quand on voit avec E-Tech, à l'année, les abonnements avec E-Tech, par exemple, c'est quelque chose de beaucoup moins cher et bon, ça nous fait réfléchir sur le devenir de la musique numérique à la médiathèque. Donc c'est quand même du matériel qu'on achète, c'est quand même des choses qui sont périssables, qui peuvent rapidement tomber en panne. Et donc le personnel doit être formé vraiment très bien sur la numérisation et puis sur la partie administration, puisque quand les personnels de Gmixon ne sont plus là, effectivement il faut se débrouiller pour que l'outil soit toujours en état de fonction, et que quand les adhérents demandent le PC Pocket à la consultation, on dit pas ben non c'est en panne, non ben ça marche pas, et qu'en fin de compte on investit sur une image plus que sur des réelles pratiques. Et voilà. Donc il faut également accompagner les publics à l'utilisation de l'opaque. Ça c'est relativement simple aujourd'hui, les gens naviguent très bien dans les opaques et c'est pas un souci. Par contre, dans l'utilisation des PC Pocket, effectivement il faut les accompagner un petit peu. Je parle pas des jeunes parce que bon, ça va très vite, mais il y a quand même des publics qui sont un peu surpris d'abord qu'on mette à disposition un outil pareil pour écouter la musique, voilà, tout simplement. Donc un peu insister sur l'accompagnement, comment on scanne, comment on scanne le code à barre, comment il y a des façons de faire, de positionner le lecteur, etc. Et puis surtout de mettre une politique de numérisation en place. Ça c'est très important parce que sinon on va vite vers l'achat exponentiel d'Acuta pour stocker, on numérise tout, et puis on ne sait pas trop ce qu'on fait, on offre un service, mais est-ce qu'on le fait de façon intelligente? Donc ça c'est très important. Et puis donc à Martigues on a fait un peu les frais de ça parce que En fait, quand on a ouvert la médiathèque, on devait recevoir la société Gémixon sur l'espace musique, et les 20 000 CD devaient être numérisés avec le personnel en amont de l'ouverture. Et puis, vu que bon, on sait ce que c'est, les travaux, etc., on a pris du retard. Et en fin de compte, on a été obligé d'envoyer des colis de CD donc à Montauban. Et puis, dans l'urgence, on n'a pas trop réfléchi à ce qu'on allait mettre en place en termes de politique de numérisation. Et on s'est vite rendu compte que on avait peut-être numérisé des choses qui ne valaient pas le coup. Voilà. Donc, je vais laisser la place à mon collègue Léo, là, qui va vous parler un petit peu de la partie plus métier de la solution d'écoute. Voilà.
Voilà, je vais vous parler de l'aspect fonctionnel et de la politique de numérisation donc, que l'on a choisie. Donc, après la demande de numérisation de 20 000 compact disques pour faire l'ouverture, il a fallu envisager une politique de numérisation réfléchie pour mettre l'outil en valeur et surtout permettre au public de se l'approprier. Donc, la mise en valeur, l'outil de numérisation, soit les écrans de recherche documentaires sur OPAC ainsi que les Palm ou Pocket PC, doivent être connus des usagers. Le problème que l'on a actuellement, c'est que on vous a montré la table de travail, donc les Pocket PC ne sont pas à la vue des usagers. Donc ils ne connaissent pratiquement pas ce service. Donc c'est à nous de l'informer. Et on compte déplacer les Pocket PC à l'entrée pour que les gens qui utilisent la médiathèque, la discothèque, les voient. Donc le rôle du personnel consiste alors à informer le public sur la fonction de ce nouveau service et son usage. La recherche documentaire sur OPAC, elle concerne les documents présents ou empruntés par le public. Son utilité est double, puisqu'en visualisant le document, la personne peut en écouter un extrait, même si le document n'est pas présent physiquement. C'est-à-dire tout ce qui est numérisé sur l'OPAC de recherche documentaire peut être écouté, même si le document est emprunté. Donc ça, c'est un avantage pour les gens qui recherchent un morceau précis ou qui ont des recherches documentaires à faire. Donc les Palm ou Pocket PC, ils sont utiles pour écouter les compacts non empruntés. De façon ludique, l'usager se balade de bac en bac pour découvrir ou redécouvrir les compacts. Donc le Pocket PC est très facile d'utilisation, c'est un petit appareil qui a ce format là à peu près. Donc il suffit de prendre le document présent en bac, de scanner le code barre commercial et de l'écouter. Voilà. Donc là on peut écouter tous les morceaux dans leur intégralité, alors que pour la recherche documentaire sur l'OPAC, on n'a numérisé que 2 minutes de chaque morceau. Dans la pratique, pour l'écoute sur les postes de recherche documentaire ainsi qu'avec les Palm, un casque est prêté en échange d'une pièce d'identité du lecteur ainsi que de la carte d'adhérent de la médiathèque. Donc le casque permet un confort d'écoute pour l'adhérent ainsi que pour le public. Je vous parlais maintenant de la politique de numérisation. Donc elle s'est révélée nécessaire suite à une capacité de la mémoire qui était arrivée à saturation. Donc il a fallu dénumériser des documents en fait. Donc elle est en cours d'élaboration et elle a été choisie après réflexion menée par le personnel de l'espace musique. La politique de dénumérisation, dont l'expédition des 20 000 CD à numériser a engendré une saturation de la mémoire. Il a fallu envisager une dénumérisation de certains documents, dont le choix a été alors de retirer les compacts qui étaient en réserve, puisque lorsque nous avons expédié les compacts, on nous avait donné une marge de 20 000 documents à expédier. Il a fallu que l'on envoie les documents présents, et comme on en avait beaucoup de documents qui étaient empruntés, on a envoyé alors des documents qui étaient en réserve chez nous. Parce qu'on a une réserve assez conséquente de 5000 documents. Donc c'est un peu une politique de conservation, mais c'est volontaire parce que on pense que, contrairement au livre qui peut être désuet à un moment donné, la musique garde toute sa valeur au fil des ans. Donc on a voulu garder ce fonds de CD qui n'était pas réédité ou qui était introuvable. Donc cette politique de dénumérisation nous permet alors de faire des choix. Alors outre les fonds non diffusés dans les médias, elle va concerner les compacts à faire découvrir au public. Donc on a choisi des musiques particulières, comme la musique improvisée ou le fonds local. Il faut savoir qu'on a un important fonds local dans les groupes qui sont présents sur l'espace régional, nous envoient des CD ou nous les font transmettre, car tous les mois nous faisons une animation pour faire découvrir les groupes locaux, donc des concerts, et donc il y a un site d'hébergement à l'ECM pour tout ce qui, concerne les groupes locaux. Voilà, donc on a choisi de faire des, de numériser des fonds particuliers, ou alors soit des compacts liés à un événement particulier, comme une animation interne ou un événement d'importance, par exemple l'année d'anniversaire d'un musicien, date du décès, de naissance, etc. Donc en conclusion, je dirais que l'écoute sur place a démarré de façon chaotique, mais une appropriation de l'outil par le personnel et les usagers nous laisse envisager que dans un futur proche, ce système sera perçu par tous comme un formidable outil de recherche. Voilà. Merci.
Oui. Oui. Ben en fait, on s'est posé la question nous aussi quand on a mis en place la solution. Et donc la société Opsis, donc c'est considéré comme une copie privée en fait, étant donné que c'est le serveur de la médiathèque et que c'est le seul serveur de la médiathèque. Donc c'est la réponse qui a été donnée, donc on n'est pas la seule médiathèque, puisqu'il y a Gardanne chez nous, près de chez nous, il y a la médiathèque de Biarritz qui a la même solution, et deux ou trois autres dont je n'ai plus le souvenir, mais on est à peu près une dizaine voilà, sur le territoire à avoir Gémixon. Effectivement, ça nous a posé, ça nous a questionné. Voilà, c'est sûr que. Les 20 000 CD donc, sont numérisés sur un serveur qui appartient à la médiathèque. C'est considéré comme une copie privée. Donc elle est pas sur le site internet de la médiathèque, évidemment, il n'y a pas la possibilité de consulter, donc d'écouter, évidemment. Donc, mais je reconnais que c'est limite.
Non.
Je pense que la société Opsis a dû, en termes de droit, donc c'est elle qui a toute la responsabilité, puisque c'est elle qui diffuse la solution. Je pense qu'en termes de droit, ils ont dû quand même s'acquitter de ce. Oui, donc on paye à la SACEM, effectivement, on paye à la SACEM. On paye à la SACEM, excusez-moi.
Non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Alors, je vais.
Donc là, on est sur l'écoute sur place.
Oui. Je vais essayer de vous apporter une réponse ferme. Je vais essayer. La nouvelle loi telle qu'elle est passée, parce qu'en fait, on s'inscrit dans ce cadre. Et c'est le seul qui fait loi, malheureusement. C'est le seul. Il n'y a pour le moment pas de jurisprudence, mais il y a un article qui prévoit une exception de copie, soit pour. La conservation, soit pour, et je cite de mémoire entre guillemets, préserver la consultation sur place. Voilà, c'est la seule chose qui est permis. Donc, si on tire le fil jusqu'au bout, si on dénoue la pelote, voilà ce que ça signifie. Un, lorsque vous avez une collection qui est en prêt et qu'un CD est emprunté, si vous l'avez numérisé, vous n'avez pas le droit de communiquer cette numérisation. Vous ne pouvez communiquer. Un fichier numérisé que lorsque la consultation sur place est en péril. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le support qui permet de communiquer le document, le CD à savoir, est en mauvais état et que vous ne pouvez plus le communiquer. Non mais c'est ce que ça signifie. On en discutait avec Gilles Pierret à midi, on est tombé d'accord là-dessus. Il n'y a pour le moment pas de jurisprudence. Donc c'est une interprétation d'un bibliothécaire. Donc c'est à prendre pour ce que c'est, ça ne reste qu'une interprétation d'un bibliothécaire. Le jour où vous aurez un procès sur cette question avec de la jurisprudence, elle fera loi. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Cependant, il y a quelque chose sur lequel on peut revenir. Normalement, un extrait, c'est 30 secondes. Là, vous êtes sur 2 minutes. Mais communiquer un extrait, c'est une possibilité, on peut le faire. Mais là, ce qui vous permet de rentrer dans le cadre de la possibilité de consulter sur place, c'est que un lecteur va écouter, bon, la durée de 2 minutes sur l'OPAC est un petit peu trop longue, c'est normalement 30 secondes. Mais bon, À partir du moment où on va chercher quelque chose dans les rayons, on ne cherche que ce qui est présent. Or, on est obligé, avec les petits lecteurs, de scanner le code barre. Donc, on ne peut lire que ce qui est présent. Donc, on peut consulter sur place. C'est simplement une consultation différée. Et on paye des droits pour cette consultation. Donc là, on est à la limite du texte. J'essaie de réfléchir pratiquement. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça reste une interprétation. Mais c'est un petit peu plus ferme que on peut numériser, on ne peut pas numériser. En ce moment, sur discothécaire.fr, il y a la question de peut-on mettre des fichiers libres de droit sur CD et les diffuser aux usagers? La réponse est claire, non. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous ayez, même si ces fichiers sont libres de droit, il faut que vous ayez l'accord écrit formel de l'auteur de la musique pour pouvoir le graver, le copier. Et s'il s'agit d'une collection publique, parce que l'exception de copie privée, elle s'applique à des personnes physiques et non à des personnes morales. Elle s'applique à des individus. Donc cette exception ne peut pas être invoquée pour un établissement public. C'est très clair. Et ça, je pense, pour avoir suivi des cours en tant que conservateur, je pense que les choses sont claires. Il reste à avoir un procès. Moi, je l'attends, comme ça, au moins, on saura où on peut aller.
Concernant peut-être la duplication,
oui,
des licences,
oui,
gravées, je pense que les licences Creative Commons permettent la duplication.
C'est possible. Ça, je ne suis pas suffisamment au courant pour en parler.
Je pense que oui.
Oui. Oui. Je vais... Gilles Pierret.
Voilà, on peut faire un peu une bataille d'experts juridiques, on n'est, oui, pas de toute façon. Non, non. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Weber tout de suite, effectivement. Maintenant, après, bon, effectivement, il s'agit de prendre des risques aujourd'hui, parce que justement, on en est au texte de loi, puis texte de loi, bon, on regarde ce qu'il est. Effectivement, moi, j'ai compris, comme toi, mais comme beaucoup, je pense que ce qui est important, c'est la notion d'obsolescence, justement, voilà, de support en péril, ou dont la lecture pouvait être en péril, faute d'appareil, etc. Donc, c'est quand même pas le cas pour la majorité des CD, quoi. Donc là, évidemment, on interprète ça d'une façon un peu extensive en disant du moins qu'on conserve un exemplaire, ça va. Mais là, je crois que non, justement, on n'est pas vraiment. Alors après, question de prise de risque, bien entendu. Moi, je suis très content que vous les preniez. J'aimerais bien qu'on les prenne ailleurs, n'est-ce pas, dans des collectivités plus importantes. Bon, c'est un débat, voilà. Et puis peut-être que, ça fait boule de neige, et puis qu'après, la jurisprudence, ça finira peut-être bien par s'adapter. Justement, le jour où il y aura un procès, mais si tout le monde, la moitié des gens l'ont déjà fait, et c'est ça qui fait avancer les choses.
Bien sûr, tout à fait.
Voilà. Là, on est plutôt dans l'optique de la frilo. Un peu trop, non. Moi, je trouve ça très bien que vous l'ayez fait. Maintenant, après, le risque est là.
Je tiens à dire que cette solution, donc nous, on a mis en place les palmes pour la musique, mais Opsis propose la même solution pour diffuser des extraits DVD, des expositions, des tas de choses, quoi. Donc des expositions d'estampes, etc. Donc consultables via les palmes, etc. Donc ça couvre quand même tout le champ. Images et...
Ça rejoint ce que je disais ce matin. À partir du moment où une société comme CVS proposera des droits pour des fichiers numérisés, quels qu'ils soient, qu'ils soient des fichiers vidéo ou musicaux, pour les fichiers sur DVD, les droits sont négociés. Puisqu'ils sont négociés pour les DVD et que ça n'existe pas pour la musique, le passage au numérique, je ne pense pas que ce soit un gros problème. Il faudra demander à CVS à un moment donné, et à Colaco, à la DAV, etc., c'est-à-dire aux fournisseurs, puisqu'ils arrivent avec des droits négociés. Le jour où ils nous diront, écoutez, nous on vous négocie les droits dans les contrats qu'on signe en début d'année ou dans le cadre des marchés, il faudrait aussi l'inscrire dans le cadre des marchés. On n'a jamais réfléchi à ça, il faut le faire. J'aurais besoin que vous me fournissiez des fichiers numériques que je stockerai sur mon serveur. Que je stockerai sur mon serveur et que je permettrai la consultation. Mais fichiers numériques avec les droits négociés. Pour le moment, personne ne s'est préoccupé de ça. La seule bibliothèque qui fournit ce type de service à l'heure actuelle, c'est la Bibliothèque nationale qu'est la BPI. Parce qu'on oublie de le dire, elle a des missions nationales, et les droits sont négociés pour la consultation sur place. C'est le seul service existant, à ma connaissance. D'autres questions?
Oui, moi j'aurais une autre question qui me titille par rapport à votre expérience, effectivement, justement par rapport à l'usage et au public. Voilà, est-ce que, puisque là on est un peu en plein dans le concret, dans l'expérimentation des débats qu'on a eu ce matin, sur le prêt qui continue chez vous, et puis donc ce service-là, effectivement, qui se déporte vers le service, une écoute sur place. Est-ce que vous avez observé un flux, une influence de l'un sur l'autre? Est-ce que le prêt diminue? Est-ce que la consultation, l'écoute sur place augmente? Est-ce que vous avez pu analyser tout ça? Là, ça m'intéresserait bien de savoir.
Le prêt de CD, on en discutait donc avec Léonard, donc au niveau des statistiques, le prêt n'a pas baissé, mais n'a pas augmenté. Donc on n'est pas vers une augmentation des prêts significative. Donc si on est là aujourd'hui, c'est bien qu'on se pose la question de faire comment on peut faire autrement pour prêter du document. Donc on est très content qu'il y ait des journées comme ça, et je pense que il faut en faire d'autres parce que je pense que le noyau dur de la profession en fait est loin, est très loin des préoccupations et de ce mouvement en fait. Et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte parce que les budgets d'acquisition augmentent, etc. Alors que on est dans quelque chose qui est en train de dépérir. Donc je pense que non, le prêt n'a pas augmenté et la consultation sur place, bon, on l'avait lancé, donc ça commence à prendre un petit peu. C'est pas non plus quelque chose qui les gens se jettent pas dessus, donc c'est très, très particulier. C'est à nous à animer les collections aussi en fonction de la consultation, à mettre à la découverte. Mais là, peut-être Léonard il y aurait des choses à dire, mais c'est pas quelque chose de marquant non plus. Donc je serais plutôt pour faire coexister dans les médiathèques et plusieurs mondes en même temps, que ce soit le prêt, l'écoute sur place, l'aspect hybride de la médiathèque. Je crois qu'à un moment donné, on va avoir un peu comme ça des choses qui coexistent en même temps pour faire après des choix. Voilà.
Et tant que ça coexiste, ça va, mais justement, alors je sais pas si c'est une question impossible, mais est-ce que vous avez une idée, vous vous sentez capable de dire un petit peu, est-ce que ce modèle nouveau, justement, hein, d'accès en écoute sur place, est-ce que il va tenir la route et remplacer effectivement hein, le prêt avec la collection classique? Bon, c'est une question...
Oui, mais j'allais venir, puisque justement, on a eu plusieurs pannes de réseau, etc., bornes wifi et tout, et donc pour pallier au manque de... du système d'écoute sur place, on a réinstallé deux platines laser pour que les gens puissent bénéficier effectivement de l'écoute sur place qui leur était promise. Et là, on a vu effectivement que la sauce prenait quoi, avec ces deux platines laser. Donc on pense que ça va induire une utilisation de l'écoute sur place chez Mixon, puisqu'il y a une habitude qui se prend là, quoi, en fait. Et c'est rigolo, mais c'est la panne qui a induit le fait qu'on réinstalle deux platines laser, puisqu'on avait promis aux gens l'écoute sur place, Bon. Et bon, voilà, mais ça peut faire reprendre une habitude de consultation sur PAC. Mais si pas un téléprêt, je pense que enfin, une ville comme la nôtre, où il y a un tissu social assez populaire, on va dire, je pense que les gens sont toujours sur l'empreinte du CD, quoi. Sont toujours sur l'empreinte du CD. Je pense que l'outil informatique n'a pas pénétré tous les foyers. Bon, grâce au conseil régional, bon, les scolaires peuvent bénéficier d'un appareil, etc. Mais indépendamment de ça, au-delà, je pense que tous les foyers ne sont pas équipés sur notre ville de 47 000 habitants de l'outil informatique adéquat. Donc c'est à nous de nous approvisionner justement un appareil pour faire venir les gens à ce moment-là, je pense. Donc je pense qu'il faut développer ce créneau, acheter des appareils, comme a dit ma collègue Edith, dans le futur, pour qu'effectivement les gens puissent bénéficier de ces nouveaux services, et notamment de la musique, quoi, hein, à médiathèque.
D'autres questions? J'avais une dernière question, puis on va passer à la... Excuse-moi.
Petite question, pour savoir si ce système... vous avez peut-être prévu qu'il soit évolutif, c'est-à-dire garder donc la base de système et permettre l'écoute sur d'autres types d'appareils que des pocket PC ou...
Oui, il y a déjà les pocket PC sont déjà désuets, hein, ça fait 2 ans, donc ça va très très vite. En fait, il y a une espèce de vertige d'équipement, etc. Donc donc il y a déjà des nouveaux outils qui permettent la consultation. Symbol, la marque de Scanet, donc qu'on connaît bien pour scanner les codes à barre, a sorti un outil qui permet un support du moins qui permet de faire l'écoute. Je n'ai pas été voir encore, mais je sais de source sûre qu'ils ont sorti un outil qui permet d'écouter la musique, donc un peu comme le Palm le fait. Je pense qu'on fera évoluer l'écoute sur place, ou elle évoluera rapidement avec autre chose, ou alors on passera carrément, je pense, après à l'aspect hybride de la médiathèque, puisque en Martigues, on a bien pris conscience que la médiathèque hybride aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient concret rapidement, et on est sur des missions comme ça de développer. Voilà, de développer l'accès de prêt via en ligne, etc. Donc je pense que peut-être on ira sur une consultation, peut-être on rajoutera des postes à l'internet pour que les gens se connectent sur des sites pour écouter, je sais pas encore, mais je pense qu'on ça sera pas figé, parce qu'on la technologie fait que induit sur l'usage fait que bon, rien n'est figé, on le voit bien, voilà. Mais effectivement, il faut pas être frileux. Et puis il faut pouvoir se lancer dans des aventures où parfois on n'est pas trop sûr de nous, mais bon, on n'est pas tout seul.
On va passer à Tony de Wurst, la médiathèque de la communauté française de Belgique, ou la francophone de Belgique, pardon. Moi j'avais juste une dernière question. Est-ce que la consultation de l'OPAC est sensiblement supérieure du fait qu'il y a des extraits musicaux ? Parce que les catalogues sont utilisés moyennement en bibliothèque, est-ce que ça améliore l'utilisation des catalogues ?
Je ne suis pas certaine.
D'accord. Non mais c'est quid du catalogue dans ces cas-là, hein. À quoi ça sert de mettre des opaques à force, hein, de bloquer des postes informatiques alors que on continue à demander aux bibliothécaires et à fouiner dans les rayons tout seul.
Donc nous à la médiathèque, en fait, on avait deux minutes pour répondre à la question. On avait mis des postes, on avait deux types de postes, des opaques simples où les gens pouvaient aller voir le catalogue, et puis des opaques multimédia où les gens avaient accès au catalogue et à l'intranet et à l'internet de la médiathèque. On s'est rendu compte rapidement que les postes opaques n'étaient pas utilisés du tout, et que les postes qui offraient effectivement l'opaque et l'internet, ces postes-là, donc les gens des multipratiques, hein, ils viennent voir l'OPAC, voir leur messagerie, aller voir un site, et puis en 20 minutes, ils vous ont balayé 15 fonctions multimédia sur un poste. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'OPAC simple, tous les postes OPAC sont des OPAC multimédia. D'accord. Voilà. Mais on tâchera de voir ou de faire une veille plus précise sur les opaques multimédia et puis effectivement la recherche musicale. Mais je pense que dès qu'il y a Internet sur un poste, les gens vont vraiment... des fois, ils passent même par le site de la médiathèque alors qu'ils ont l'opaque sur l'intranet pour aller voir le catalogue.
Merci bien et bon retour.